Il y a 16 collectivités en France qui ont été récompensées, dont MEMAC. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous avions été remarqués déjà des années en arrière, souvenez-vous, on était la plus petite ville de France à avoir signé un pacte culturel avec l'État. C'était en 2015, il a pris son terme, c'était cette année, puisqu'il durait 3 ans. Et donc, nous étions déjà un petit peu sous le feu des projecteurs par rapport à ces actions culturelles. Mais à cela, dans notre dossier de candidature, parce qu'il faut faire une candidature, hein, même si on nous sollicite quelque part, hein, parce qu'on nous a remarqué dans tel ou tel domaine, on a un petit peu, étoffé notre candidature sur le thème de la jeunesse, où nous avons des actions innovantes en matière de jeunesse, en direction de la jeunesse, et puis aussi en matière de solidarité. Donc, c'est les 3 thèmes qui ont été retenus, à la fois la culture, la jeunesse et la solidarité, donc, qui ont mis MEMAC à l'honneur.
Alors justement, je voulais revenir avec vous sur la fin de ce pacte triennal avec l'État sur les aspects culturels. Ce pacte, il vous demandait de maintenir un même niveau d'investissement, un même budget culturel pendant 3 ans. Maintenant qu'il est fini, est-ce qu'il y a à craindre pour la culture à MEMAC ? Qu'est-ce que c'est l'avenir ?
C'est une bonne question. Non. Il n'y a rien à craindre pour la culture à MEMAC parce que, justement, nous en avons fait le fer de lance de notre politique municipale, simplement par conviction, déjà, hein, en se disant que la culture, c'est important pour chacun, pour des plus jeunes aux plus anciens, pour l'épanouissement de chacun. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout le volet économique et le volet attractif. Donc la culture, c'est à la fois, ça ne coûte pas la culture. Il ne faut pas croire ce qu'on raconte en disant que la culture, ça coûte. Non, ça rapporte la culture. Et en plus, en termes d'attractivité, quand on voit les nouvelles familles aujourd'hui qui veulent venir s'installer sur la Haute-Corrèze, j'ai encore des témoignages tout récents de gens qui vont travailler à Ussel, mais par contre qui veulent venir s'installer à MEMAC simplement parce qu'il y a ce volet culturel.
MEMAC mise sur la jeunesse. On décrit souvent le territoire comme étant un territoire vieillissant. C'est pas un investissement à perdre, miser sur la jeunesse ?
Alors, non. C'est vrai. On peut considérer effectivement que, au-delà de MEMAC, hein, tout le territoire, toute la Haute-Corrèze est un petit peu vieillissante. Eh bien, nous faisons le pari du contre-pied. Hein, on parie sur la jeunesse. Parce que, eh bien, plutôt que de voir s'évader tous nos jeunes du territoire, il est important pour nous de leur offrir un avenir sur leur territoire, plutôt que d'attendre l'âge de la retraite pour qu'ils y retournent, parce que tous, sans exception, une fois qu'ils sont en ville, qu'ils ont passé leur carrière professionnelle, n'ont qu'un objectif, c'est de revenir au pays. Alors, on leur propose de rester au pays dès le départ.
Il y en a d'autres qui viennent s'installer ici et vous l'avez évoqué sur l'aspect solidarité de votre candidature au Marianne d'Or. Ça a été l'accueil d'une vingtaine de réfugiés sur la commune. Vous avez été auditionné par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental sur ce sujet. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience de coopération avec l'État sur une question qui a pu crisper à d'autres endroits ?
Oui. C'est une question effectivement toujours polémique et toujours crispante, alors qu'elle ne devrait pas l'être. Je relisais un livre de Marie-France Houdard tout récemment pendant mes vacances, là, hein, c'est il y a quelques jours, et on voit bien que au fil des siècles, eh bien, les Corréziens se sont évadés au-delà de nos frontières, hein, pas simplement à Bordeaux, à Paris ou à Lyon, ils se sont évadés aussi en Espagne et ailleurs, tout simplement pour chercher meilleure fortune, de quoi vivre ou survivre. Donc c'est important pour nous aussi, la France, hein, on a une devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Il faut donner du sens à ces mots, et donc c'est important de faire acte de solidarité, de fraternité envers ces gens. En plus, on s'aperçoit, avec le petit recul que l'on a aujourd'hui, que sur la majorité des gens qui passent au CADA, hein, c'est devenu un CADA, hein, aujourd'hui, ce n'est plus un centre d'accueil d'orientation, c'est un CADA, et donc on s'aperçoit que les gens passent, mais que certains restent parce qu'ils ont leurs papiers, sont heureux de rester à MEMAC parce qu'ils y ont été bien accueillis. Et il y a des entreprises qui sont bien heureuses de trouver cette main d'œuvre parce que, eh bien, quand on dit qu'il n'y a pas de travail sur la Haute-Corrèze, c'est absolument faux. Il y a plus d'emplois qu'il n'y a que de demandeurs d'emploi. Mais par contre, il faut trouver chaussure à son pied, si j'ose dire. Et donc, il y a des entreprises qui sont bien heureuses de trouver cette main d'œuvre, même si ça reste encore anecdotique. Hein. C'est 2, 3, 4 cas. Hein, mais voilà, ça commence à aller dans ce sens-là, et c'est intéressant.
Et alors assez concrètement, j'imagine que si vous avez été auditionné par le CESE, c'est que ici ça a marché en tout cas. Donc concrètement, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné?
Alors c'est, je pense, d'abord une volonté au-delà d'une volonté personnelle, c'est des valeurs portées par toute une équipe. Et donc, c'est se dire que, voilà, il faut que chacun prenne en charge, chaque collectivité puisse prendre en charge une petite partie de la misère humaine, j'allais dire, ou tout au moins de ce problème migratoire, enfin, de cette question migratoire. C'est pas un problème, c'est une question, c'est pas un problème. Il faut pas en faire un problème, et c'en est pas un. La preuve, c'est pour ça que j'ai été auditionné au CESE, c'est que tout simplement, eh bien, à MEMAC, nous n'en avons pas fait un problème, nous en avons fait une simple question d'humanité, de solidarité, où on s'est dit que, voilà, prendre en charge 20 personnes pour une ville de 2500 personnes, mais c'est absolument rien, ça ne pose aucun problème, et avec le recul, 3-4 ans après, on s'aperçoit que effectivement, ça ne pose aucun problème.
Donc tout ça, c'est fait, j'imagine, en coopération avec les services de l'État. C'est une coopération qui a marché sur ces questions-là.
Oui. Au départ, nous avons répondu justement à une sollicitation des services de l'État par la voix du sous-préfet, puisque le sous-préfet à l'époque m'avait téléphoné, je me souviens très bien, un vendredi matin, en me disant qu'il était ennuyé. C'était à l'époque du démantèlement de la jungle de Calais, souvenez-vous, initié par le gouvernement Hollande. Et il était ennuyé parce qu'aucune municipalité ne se portait volontaire. Donc il m'avait téléphoné en connaissant un petit peu ma personne et les valeurs que je portais. Et donc il m'a demandé s'il était ennuyé, s'il pouvait compter sur mes Macs. Je vous avoue que dans l'instant, je lui ai répondu affirmativement, sans prendre le temps même de consulter mon conseil. Mais je savais que toute mon équipe était derrière moi, ce qui s'est avéré vrai. Et d'autant plus que les réfugiés arrivaient le lundi. Donc il fallait, dans le week-end, organiser tout leur accueil, mais matériel, c'est-à-dire qu'on avait des appartements vides, etc. Avertir les gens, puisqu'on a un dispositif qui est un peu particulier. Lié à MEMAC, il s'agit d'un CADA diffus, c'est-à-dire qu'il n'est pas concentré dans un établissement, plus ou moins en dehors de la ville ou n'importe. Et là, non, il est au milieu des logements, il y a d'autres locataires, des voisins tout autour. Et c'est peut-être ce qui fait la particularité et puis le fait que ça a très bien marché d'un point de vue de l'intégration des gens dans le tissu social. Et c'est sans doute pour ça que j'ai été auditionné au CESE.
D'accord. Si je vous parle des services de l'État, c'est que donc là on vous a remis une Marianne, une belle récompense honorifique, notamment pour votre gestion de ce partenariat avec l'État. Mais il y a quelques mois, vous dénonciez dans une autre Marianne, Le Journal, cette fois-ci, avec un collectif de maires ruraux, le désengagement de l'État. Vous accusiez Macron, le président de la République, d'abandonner les territoires. Est-ce que, à la suite de ce texte, vous avez l'impression d'avoir été entendu?
Absolument pas entendu, mais en tout cas, il fallait absolument porter ce discours, hein, l'incarner. Et puis, c'est un discours qui est porté par l'Association des maires ruraux de France, et donc plus particulièrement au niveau local, l'Association des maires ruraux de Corrèze, dont je suis le vice-président. Et c'est un combat de cette association de dire qu'il ne faut pas abandonner les territoires ruraux. Et on voit bien aujourd'hui que la politique gouvernementale, clairement, est tournée vers les métropoles, la métropolisation à tout va, les grands ensembles, etc., au détriment des territoires ruraux, et j'allais dire à contresens de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est un mouvement de balancier, c'est comme ça que je l'interprète tout au moins. Il y a eu la désertification du monde rural, et aujourd'hui, on amorce l'inverse. Encore faut-il ne pas entraver ce retour en arrière, ce retour à la ruralité, en fermant tous les services publics, en fermant les gares, etc. Donc, on lui demande juste de maintenir les services publics sans commettre un massacre de ce point de vue-là, de manière à pouvoir envisager l'accueil et le retour dans de bonnes conditions des populations qui, immanquablement, dans les 10-15 ans qui viennent, vont revenir chez nous, pour plein de raisons que je pourrais développer, mais on n'aura peut-être pas le temps ce soir.
Mais alors, justement, est-ce que c'est pas un peu ce qui est en train de se faire, ce que vous demandez, est-ce que c'est pas un peu ce qui est en train de se faire en Creuse, avec le plan pour la Creuse qui a été initié après l'affaire GMES? Est-ce que c'est ça qu'il nous faut en Corrèze? Est-ce qu'il faut un plan pour la Corrèze?
Eh bien, écoutez, il faut très certainement un plan pour le monde rural. On ne peut pas traiter le monde rural tel qu'on traite le monde urbain. C'est pas possible. Il n'y a pas la même concentration de citoyens, il n'y a pas les mêmes infrastructures, etc. Donc il faut, et malheureusement, la France aujourd'hui, il me semble, est gérée uniquement par des gens issus du monde urbain, des gens qui vivent entre soi, entre eux, au sein du cercle du périphérique parisien, et donc qui ne connaissent pas les réalités de terrain. Emmanuel Macron me semble incarner justement fortement cette image. Et donc il est absolument important de faire aujourd'hui un plan d'aménagement du territoire, notamment pour le monde rural, tel qu'il y a eu jusqu'en 2014, mais qui a été abandonné depuis.
Vous mettez en opposition les métropoles et la campagne, en tout cas face à face. On vit, c'est peu de le dire, dans un État qui est extrêmement centralisé. Comment vous avez été reçu en tant que maire d'une petite commune rurale à Paris, quand vous êtes monté, comme on le dit à Paris, pour être auditionné par le CESE et pour recevoir la Marianne d'Or?
Eh bien, écoutez, évidemment, Madame le maire du 5e arrondissement, puisque ça se passait dans la mairie du 5e, puisqu'elle aussi recevait une Marianne d'Or au titre de la culture, d'ailleurs, de ses actions culturelles. C'est très bien parce que ça m'a permis de visiter le Panthéon et donc de rendre hommage à Simone Veil, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et bien, écoutez, on est tout simplement poliment accueilli, mais on est quand même un peu ignoré, et j'avoue que même si il est bien de faire entendre le nom de Mémac et de porter comme ça un message d'une ruralité d'avenir, d'une ruralité qui réussit, c'est important, mais on est encore regardé comme un monde un peu plus loin, autre part.